Bienvenue si vous nous rejoignez. On revient ce soir sur la disparition de la petite Lina. 8 mois que l'adolescente de 15 ans n'a pas donné signe de vie. La mère de Lina a décidé cette semaine de participer à l'émission d'M6 Appel à témoins. Et lors de cette émission, une personne a contacté Julien Courbet indiquant qu'un homme avait disparu au même moment que l'adolescente. Visiblement, ça fait partie des pistes explorées par les enquêteurs. On va en parler avec vous, Dominique Rizet. Tout part donc de la participation de la mère de Lina, Fanny,
absolument,
à cette émission Appel à témoins sur M6 de Julien Courbet.
Oui, qui décide elle-même d'y aller, qui a dû en parler à son avocat forcément, qui n'est pas obligée d'en parler à la justice. La justice fait son travail de son côté. Et c'est vrai que ça traîne un peu, hein. Et donc elle a décidé de participer à cette émission. Ça a existé, on en parlait tout de suite. Jacques Pradel a fait Perdu de vue, témoin numéro un. Bon, et donc c'est peut-être la possibilité de recueillir le témoignage de quelqu'un qui pourrait. Vous savez, on pense tout de suite que quelqu'un qui était là-haut, qui passe dans le coin, va tout de suite aller voir les gendarmes en disant tiens, j'ai vu une voiture blanche à laquelle il manquait un enjoliveur, mais pas forcément. Les gens vont vivre leur vie, continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Et puis plus tard, quand on va leur dire « Lina, ah ouais, ce jour-là, je suis passé, il y avait cette voiture blanche. » Donc, c'est important de le faire, c'est important de le faire, mais là, il y a eu 400 personnes qui ont téléphoné.
Donc attendez, ça c'est une émission où n'importe qui peut passer un coup de fil pour dire « j'ai un indice » et c'est anonyme.
Absolument, c'est anonyme et ça pose un vrai problème aux enquêteurs qui disent « nous derrière, on est obligés de faire le boulot » parce que tous les coups de fil qui ont été passés, tous les numéros de téléphone qu'on nous donne, tout ce qui a été enregistré, on doit le vérifier. Alors, il y a 2-3 farfelus qui appellent, il y a des personnes qui pensent savoir quelque chose et qui ne savent rien, il y a des gens qui disent, mais dans certaines affaires, eh bien, parfois, un appel a servi. Si vous me laissiez 30 secondes pour vous en raconter une, on en parlait tout de suite.
Alors, attendez, vous savez quoi? On va évoquer ce cas juste après, parce que j'aimerais qu'on aille jusqu'au bout de cette nouvelle piste avant. D'abord, ce que dit la mère de Lina lors de cette intervention à la télévision. Peut-être qu'on peut voir le message qu'elle a lancé. J'appelle toute personne qui aurait un renseignement, qui aurait vu quelque chose, qui aurait un doute sur quelque chose. Je vous en supplie, appelez, n'hésitez pas. Mm-hmm. Puis elle poursuit... dans mes tripes, dans mon cœur, je sais qu'elle est en vie. Osez, ce sont des appels anonymes. Vous ne risquez rien. On a besoin de savoir. On a besoin de Lina. On veut comprendre. À partir de là, que se passe-t-il?
Alors, à partir de là, eh bien, l'émission est construite. Les gens téléphonent. Elle avait une phrase terrible à un moment de Lina. Elle avait dit quelque chose, moi, qui m'avait glacé le sang. Elle avait dit, je veux que ma fille soit à côté de moi. Elle parlait à la télé. Elle disait, je veux que ma fille soit à côté de moi. Ben oui, mais sa fille, 3 mois après, n'est toujours pas là. Donc là, les gens ont téléphoné à un standard. Il y a derrière des policiers qui vont, ou des gendarmes qui ont l'enquête, et en l'occurrence des gendarmes, pardon, qui vont vérifier chaque piste, chaque appel. Ça fait énormément de travail. Dans certaines affaires, l'affaire Dino Scala, dont on a parlé récemment, le violeur de la Sambre, qui a été jugé, condamné pour 46 viols, eh bien, il y a un policier qui disait, il y avait un portrait robot qui disait, non, mais le portrait robot, ça n'avait aucun intérêt de le diffuser parce que ça nous aurait obligé à vérifier 36 000 choses et 36 000 appels. Sauf qu'il aurait mieux valu le diffuser.
Parfois, ça porte ses fruits. Dans ce cas-là, il y a un appel qui a intrigué les enquêteurs. L'appel d'un entrepreneur de la région qui faisait part de la disparition de l'un de ses employés, c'est ça, en septembre dernier, au même moment que Lina, et dans le même coin, dans la même région.
Dans la même région, au même moment, dans les jours qui suivent, cet employé disparaît, on n'a plus de nouvelles, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et donc, cet homme, donc cet entrepreneur dit... Est-ce qu'il pourrait y avoir un rapport entre la mort, la disparition de Lina et ce qui semble être une disparition? Est-ce que mon employé est mort? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que, vous voyez, donc ça, ce sont des choses qui peuvent être liées. Je vous rappelle que dans une histoire, l'affaire Elodie Kulik, qui est une banquière qui va mourir dans le Nord, eh bien, l'homme qui était soupçonné d'être son meurtrier a eu un accident. Sa moto a percuté très très vite un camion. En changeant de voie, l'accident était suspect. Donc, la disparition de cet homme pourrait peut-être avoir un rapport, ou en tout cas, il faut se poser la question et il faut vérifier.
Et donc, la piste, elle est explorée. C'est l'une des pistes qui est sérieusement explorée par les enquêteurs en ce moment.
Bien sûr, on va explorer cette piste. On va essayer de retrouver cet homme, de comprendre les raisons de sa disparition, de savoir où il est, et s'il est quelque part, où est-ce qu'il a disparu, le retrouver et lui poser des questions.
Et il faut attendre une émission de télé. Cette information de cette disparition dans le même périmètre, le même jour, n'arrive pas à la justice ou à la police. Je tombe des nues.
C'est vrai que la question se pose, mais là, en tout cas, Perrico, ce sera un plus. Et très vite, sur l'anecdote que je voulais vous raconter, on parlait tout de suite de Christian Van Gelhoven. Mmh. On a fait entrer l'accusé sur lui. Cet homme, en 91, enlève et tue deux petites filles de 10 ans à Elne, à côté de Perpignan. Les gendarmes de la section de recherche de Montpellier le cherchent. Et vous savez comment ils vont le retrouver? Parce que sa tante, qui habite en Hollande et qui sait que son neveu est un type qui a fait des choses pas très propres, appelle les gendarmes de Montpellier et leur dit « Je vous dis ça, mais je vous dis rien. Je sais que mon neveu était près de Perpignan, il était à Elne au moment où les deux petites ont disparu. » Les gendarmes ont vérifié, c'était lui qui les avait tués, il a été condamné pour ça. Il a été condamné, il est mort en prison.
On rappelle, Lina, elle disparaît fin septembre dernier, il y a donc 8 mois. Ça, c'est une piste qui est explorée parmi d'autres. 8 mois plus tard, quelles sont les hypothèses, ou en tout cas l'hypothèse qui ressort principalement?
Alors, les gendarmes ont vérifié énormément de choses. Souvenez-vous, quand elle disparaît, le maire du village la croise et dit qu'elle était au téléphone, elle avait 3 kilomètres à faire entre chez elle et la gare. Elle allait à la gare prendre le train pour rejoindre son petit copain qui était à Strasbourg. Donc, on a soupçonné le petit copain. La maman de Lina elle-même a dit « No way, ça n'existe pas, ça peut pas être lui ». Et on a ensuite cherché des propriétaires de Clio de couleur grise. Parce qu'on avait vu quelqu'un, un homme d'une vingtaine d'années, qui avec une Clio tournait dans un secteur autour de l'endroit où a disparu Lina, notamment dans une aire de jeu. On a vérifié, on a cherché cet homme et on a réussi à retrouver plusieurs Renault Clio parce que les voitures d'aujourd'hui ont un numéro IMEI comme nos téléphones, les voitures modernes. Vous vous déplacez avec votre voiture, vous avez une voiture qui va donner des informations sur vos déplacements et cette voiture elle a un numéro IMEI, donc on a localisé, géolocalisé des Renault Clio qui correspondaient à cette fameuse Renault Clio qui était celle de ce type qui tournait dans le coin. On a vérifié une petite dizaine de Renault Clio, mais qui n'était pas celle de la personne qu'on recherchait. Énormément de boulot a été fait dans cette enquête, mais ça n'a rien donné pour l'instant.
Vous avez une dernière question.
Oui, juste, avec le temps qui passe, est-ce qu'il y a toujours autant d'effectifs gendarmes justement dans l'enquête? Et là, l'émission qui va leur rajouter beaucoup de travail, est-ce que c'est finalement un plus pour eux ou est-ce qu'ils sont en sous-effectif avec le temps qui passe?
C'est l'excellente question qui fait mal. C'est que plus le temps passe, moins on peut consacrer en quantité des enquêteurs à une affaire. Au début, ils sont 30. Regardez Émile, le petit Émile, Lina, Chevaline, Jubilard, tout un tas d'affaires qui, pour l'instant, ne sont pas encore solutionnées. Au début, il y a 30 enquêteurs, puis il y en a 10, parce que dans une équipe de policiers ou de gendarmes, eh bien, il faut consacrer du temps à d'autres enquêtes qui arrivent, à d'autres événements qui interviennent. Il doit y avoir 5 ou 6 personnes qui travaillent vraiment sur le dossier et qui, là, en ce moment, vont avoir un renfort d'une 30aine de personnes pour passer des coups de fil vérifiés. Mais les gendarmes peuvent aussi, ou les policiers hein, d'ailleurs, appeler des brigades ou des commissariats ailleurs en France, puisque les gens qui vont téléphoner, les 400 personnes dont parlait Julie, qui ont appelé, sont des gens qui habitent à Cherbourg, à Marseille, à Strasbourg. Donc, on appelle la brigade ou le commissariat local, on leur dit « Coco, est-ce que tu peux me vérifier ça, s'il te plaît ?» Une voiture blanche avec un feu arrière droit cassé. Est-ce que tu peux regarder tel type de voiture? On se partage le travail.
Mais Dominique Rizet, est-ce que...
Toute dernière question.
Vous évoquiez Jacques Pradel, témoin numéro 1, etc. À l'époque, il y avait des grands débats sur le côté très voyeur en fait, de ces émissions. Est-ce que vous estimez que ça ne va pas parfois un peu trop loin et que ça ne manipule pas, ça n'instrumentalise pas la douleur des familles?
La question me fait mal. Mais quand on est la maman de Lina et qu'on veut savoir... On se raccroche à tout. Je pense qu'on peut même essayer de se raccrocher à une paroi lisse, à une paroi de verre, en espérant qu'on va adhérer à quelque chose pour essayer de trouver la vérité. Donc, de ce côté-là, c'est pardonnable. Sinon, sur le côté voyeur, évidemment, vous avez raison.
Dominique Rizet, vous restez avec nous puisqu'on va parler d'une autre affaire à présent. Éric Dupond-Moretti qui lance une enquête, enquête confiée à l'inspection générale de la justice après la fuite, l'évasion de Mohamed Amra. D'ailleurs, s'agit-il réellement d'une évasion ? Il y a d'autres hypothèses qui sont soulevées à l'heure où on parle.